Il faut que tu retrouves ce regard-là. L'œil du tigre, mec. Ouais, l'œil du tigre.
Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur.
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Ancien combattant, militant socialiste et bistrot.
Là, il a marqué un point.
C'est de dire si dans ma vie, j'ai entendu des conneries. Il est comme ça, jamais.
À l'affiche ce soir, c'est une histoire qui se passe au XXe siècle. C'est l'histoire d'une grande fabrique à champions qui tient en quatre lettres, CCCP ou URSS, au choix. Ce soir, c'est le récit d'une grande figure du sport, le champion soviétique. Entre le marteau et la faucille, voici la 27e étape de notre grand safari au pays de la culture de masse.
Tu nous prends pour des bourris ?
Oui, ça passe.
Ça, c'est un excellent
burger. Winter is coming.
Cette année, 2019, marque le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin, prélude à l'effondrement d'un monde qui a façonné l'histoire du sport pendant plus d'un demi-siècle. La guerre froide fut de tous les stades et de toutes les compétitions internationales. Et en première ligne, le fantassin soviétique fut un sportif, oui, ou une sportive d'ailleurs. Et bien ce soir, pour ausculter cette figure du siècle passé, deux invités au micro d'Inter. Tout d'abord, il est historien spécialiste du sport en URSS et auteur d'un récit passionnant, Les héros du sport, une histoire des champions soviétiques. Sylvain Dufraisse, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue. Et puis à vos côtés, un ancien escrimeur, entraîneur également, et qui a vécu cette guerre froide du sport au plus près lors des compétitions dans les années 70 et 80, Jean-Michel Auprintec, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue à vous. Juste avant le champion soviétique, nous accueillerons le Tsarevitch d'Angoulême, le Dominique Besnéard. Dominique, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, qui est à l'écran ce soir ?
La créatrice des créateurs, la productrice Mac Bodard qui vient de nous quitter.
À 103 ans, l'immense Mac Bodard. Et enfin, juste avant 19h, bien sûr, le Give Me Five signé Joy Raffin. Salut Joy.
Salut Colin, bonsoir à tous.
Le programme.
Eh bien, des footballeuses engagées, une tenniswoman en poupée et des losers réhabilités.
Merci beaucoup, à tout à l'heure. Surtout, n'ayez pas peur et soyez les bienvenus dans l'œil du tigre.
L'œil du tigre, Philippe Colin sur France Inter.
Alors, cette semaine, on commence avec un avis de décès. C'était mercredi soir, un peu avant 23h, le Paris Saint-Germain disparaissait de la Ligue des Champions, un accident stupide. Dans la foulée, Marco Mutel m'a dit « Je crois que c'est le bon moment pour balancer la marche funèbre de Chopin ». J'ai dit « Banco, voici le flashback ».
Paris sera toujours Paris.
Je ne sais plus quoi dire, ça tourne au cauchemar pour le PSG.
Alors maintenant, mégagard, la musique va changer.
Et revoilà la remontada.
Arrêtez, vous allez nous porter malheur.
PSG comme perdre sur gazon.
Et en plus, il nous charrie, c'est complet.
3 buts 1 pour Manchester United. Et voilà donc le PSG qui s'arrête encore une fois en 8e de finale de la Ligue des Champions. Pour la 3e fois de suite, ça commence à faire beaucoup.
On tourne en rond.
Bref, ça reste la douche froide quand même pour tous les supporters du PSG.
C'est pire, 90e minute, c'est le deuxième coup de couteau là. Là, on a réouvert une plaie, c'est très dur.
C'est l'horreur, on est anéanti.
Soirée catastrophique, rien n'a été. Et le PSG est redevenu hier, 2 ans après la légendaire remontada, le PSG est redevenu la risée du football européen.
Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant.
Eh ben, je suis bien d'accord. Précieuse poésie de la biscotte à méditer. Bien. Après le vide, voici le plein. Après la tristesse, voici l'allégresse. Après la mort, voici la vie. C'est l'heure du Dominique Besnéard.
C'est fou la vie.
Oui, c'est fou la vie. Ce soir, Dominique, c'est une femme de l'ombre.
Oui, notre vedette de ce soir a passé sa vie derrière les écrans de cinéma. Mac Bodard, la première productrice de cinéma en France, nous a quittés le 28 février dernier à l'âge de 103 ans. Véritable pionnière, Mac Bodard apportait en elle une audace singulière. Elle était une productrice culottée qui a offert une existence à des films novateurs ou surprenants que tous les autres refusaient. Elle fut la première à croire au parapluie de Cherbourg et a eu le cran de produire deux ou trois choses que je sais d'elle, de Godard, sur la base d'une unique feuille de scénario.
Et alors, Mac Godard s'appelait Marguerite Perrateau.
Oui, née à Turin le 3 janvier 1916, la jeune fille dont la famille s'installe en France en 1922 suit ses études à Paris. Elle rencontre Lucien Baudard en 1937 et l'épouse l'année suivante. Quand la Seconde Guerre éclate, Lucien Baudard rejoint Londres tandis que Mag reste à Paris et accueille dans son appartement des prisonniers évadés. Le couple vit ensuite 8 ans en Indochine où Lucien est devenu écrivain et reporter célèbre.
Et d'ailleurs, au départ, elle se voyait journaliste.
Oui, c'est comme ça qu'elle devient correspondante du magazine Elle en Indochine. À son retour en France, elle succombe à Pierre Lazareff, patron de François à son apogée, qui était alors à son apogée. Elle lui demeure fidèle jusqu'à sa mort, même s'il reste marié à son épouse officielle, Hélène Lazarev, créatrice du magazine Elle. Elle s'aime pas beaucoup.
Oui.
Et puis à 45 ans, elle se lance dans le cinéma par goût de l'aventure. Le premier film qu'elle produit est La Gamberge de Norbert Carbonneau en 1962. C'est une commande de pâté qu'elle accepte pour le plaisir de travailler avec son amie Françoise d'Orléac. Mais le film est un four retentissant. Cet échec commercial et artistique marque alors son orgueil au fer rouge. Et dès lors, Mac Baudard est résolue à ne produire que des films qu'elle a elle-même choisis et dont la vocation est assumée artistiquement.
Et puis elle suit son instinct, Dominique.
Et elle choisit, entre tous, un jeune cinéaste dénommé Jacques Demy. Elle tombe sous le charme de son projet hors du commun, Les Parapluies de Cherbourg, une comédie musicale entièrement chantée. Et c'est avec ce film et la Palme d'Or qu'il décroche en 1964 qu'elle trouve la reconnaissance du public et de la profession. À partir de là, Mac Baudard travaille avec les grands réalisateurs des années 60. Bresson, Godard, Varda, René, Michel Deville. Elle s'affirme comme une productrice emblématique de la nouvelle vague et la plupart de ses productions sont aujourd'hui considérées comme des chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma. Dans les années 70, pour défendre un cinéma de qualité, Mac Baudard s'endette jusqu'à faire faillite. Ce qui est important, c'est de faire un beau film. Entre la qualité et l'argent, j'ai toujours préféré qu'un film soit beau et corresponde à mon rêve.
Visionnaire, ensuite, elle se tourne vers la télévision.
Avec son inséparable amie Nina Companese, elle enrichit la création audiovisuelle de nombreux chefs-d'œuvre comme Les Dames de la Cour, qui révèle Fanny Ardant, ou L'Allée du Roi, superbe évocation de Madame de Maintenon avec Dominique Blanc. Mac Baudard était une créatrice de créateurs, j'adore cette phrase, comme le dit si justement Nina Companese. Il y a une chose qui est très enracinée en Mac Baudard, c'est le besoin d'aider les gens à devenir eux-mêmes. Et pour reprendre les mots de la présidente du CNC, Frédéric Bredin, Mac Baudard considérait son métier comme un don, celui d'avoir un regard et de permettre au talent de créer tout en lui donnant confiance.
Et bien voici Mac Baudard qui nous parle de son art.
Je croyais que rien ne pouvait résister à la volonté au travail. J'ai toujours d'ailleurs le sentiment que le travail emporte sur tout. Dès qu'on travaille, on construit.
Oui.
Parce que quels que soient les dons que vous ayez, et tout le monde en a à plus ou moins grande ou petite échelle et dans des lieux différents, si on ne travaille pas, ces dons ne peuvent pas s'épanouir. C'est comme des fleurs dans un jardin. Ça ne peut pas s'épanouir. C'est en voulant, en travaillant, en étant accroché à ce qu'on veut, de toutes ses forces. D'ailleurs, tous les films que j'ai faits, je les ai voulus au-delà du raisonnable. Jusqu'à en mourir. Je ne pensais qu'à ça. Il faut que j'y arrive. Il faut que ce soit bien. Il faut qu'on y arrive. Il faut que ça plaise. Il faut que ce soit réussi. Et ça a toujours été ma façon de penser, de vivre. Ça a développé chez moi une volonté terrible.
Merveilleuse, Mac Baudard. Je suis très heureux qu'on ait parlé d'elle ce soir, Dominique, dans cette émission. Tu voulais évoquer un livre.
Oui, moi j'ai plongé dans ce livre écrit par Philippe Martin, qui est producteur de Salvadori, de Nicole Garcia, et qui l'a rencontré pendant un an, je crois. Et surtout, ce qui est merveilleux, c'est que c'est un peu son héritier. Voilà.
Et oui, édition La Tour Verte en 2013, un livre donc de Philippe Martin consacré à Mac Baudard. Merci beaucoup, Dominique Besnéard. À la semaine prochaine, voici maintenant l'histoire du dimanche soir. Aux origines de la révolution soviétique, la pratique sportive avait trois vertus. D'abord, entretenir le corps du soldat pour défendre le socialisme. Ensuite, optimiser le corps du travailleur pour absorber la cadence des usines. Et enfin, assainir le corps du peuple pour le purger de ses vices. En revanche, la compétition sportive était rigoureusement proscrite par le régime. Pas de champion soviétique, pratique trop bourgeoise. Jusqu'à ce que le parti comprenne que le héros sportif pouvait incarner la patrie et ses succès. Et c'est ainsi que l'URSS s'est transformée en une immense fabrique à champions pour créer le héros du sport soviétique, une figure du XXe siècle, à l'image de l'haltérophile Youri Vlassov, présenté ce soir par le merveilleux Claude Dargé.
Merci maintenant aux soviétiques de nous avoir fait parvenir les documents filmés que voici et qui nous permettent de faire plus ample connaissance avec l'un de leurs phénomènes, le citoyen haltérophile Youri Vlassov. Haltérophile et bibliophile. Avec pour auteur préféré, noblesse oblige pour un homme de cette trempe, Jacques London et Ernest Hemingway. Ici, l'entraînement quasi quotidien de cet ingénieur mathématicien qui détend ses méninges en bandant ses muscles sous l'œil averti de son entraîneur conseil, Petrasovich Bogdasarov. Les Jeux Olympiques ici, l'Américain Bradford, 519 kilos aux trois mouvements. Et derrière lui, Vlassov, 553 kilos 500 aux trois mouvements. Regardez bien cette image, le développé est bon à quelques grammes près sans doute, mais quels grammes ?
Youri Vlassov, figure idéale du champion soviétique, mais qui lit des romanciers américains quand même, selon Claude Dargé. Sylvain Dufraisse, vous êtes historien et auteur d'un récit passionnant consacré à ces champions soviétiques. Juste pour commencer, en quelques mots, qu'est-ce qui a motivé toutes vos recherches ces dernières années sur ce champion soviétique ?
Donc voilà, à peu près une dizaine d'années que j'ai commencé ces recherches sur le héros sportif soviétique. Et ce qui m'est apparu, c'est que, ayant grandi dans les années 80, j'avais l'image des sportifs dopés, l'image des sportifs fabriqués dans des usines à champions, l'image aussi de la triche sur les âges, etc. Et en allant en Russie, en fait, j'ai découvert, dans l'espace public, par exemple dans le métro, puisque par exemple, pour aller sur la place Rouge, il y a une station qui s'appelle Plocha de Revolutsi, où il y a une galerie des héros de l'URSS, une station qui a été construite en 1938. Et parmi ces héros, avec la Kolkhozienne, avec le mineur, la lanceuse de disques et aussi le footballeur. Ça, c'est un des premiers éléments. Ensuite, en allant dans les musées, j'ai vu combien la figure du sportif avait été importante dans les peintures, dans les photographies de l'avant-garde, mais aussi dans les peintures réalistes socialistes. Et enfin, en regardant la télévision, on voit en fait combien de dessins animés ont eu pour objet des années soviétiques, ont eu pour objet des champions, des sportifs, mais aussi actuellement des films. Là, il y avait un très grand succès, le grand succès de l'année dernière en Russie parle des Jeux Olympiques de 72, de la victoire en basketball. Et il y a quelques jours, j'étais en Russie et il a été diffusé le soir du jour des défenseurs de la patrie en prime time. Et donc voilà, en fait, cette espèce de conflit de mémoire, ça m'a entraîné à travailler sur cette fabrique du héros pour essayer d'aller chercher comment ils ont été fabriqués.
Et c'est vrai qu'à la lecture de votre livre, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de clichés véhiculés à l'Ouest. On va y revenir, mais ces clichés-là, ils sont la peau dure et ces mythes du KGB omniprésent, des sportifs dopés. Il y a une réalité, mais il y a beaucoup d'exagérations, évidemment, du point de vue de l'Ouest. Jean-Michel Oprindec, bonsoir à vous. Rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien escrimeur, directeur technique national. Vous avez vécu, entre guillemets, cette guerre froide du sport en première ligne, notamment dans les 70-80. En quelques mots, pareil, en 2019, aujourd'hui, Jean-Michel, quel regard vous portez, vous, sur ces champions soviétiques que vous avez croisés à l'époque ?
D'accord. Alors, le regard que je porte, c'est surtout que ça faisait partie d'une organisation considérable qui a démarré donc dans les années 50 et notamment les écoles de sport en 1962. Et que donc, cette configuration était totalement impressionnante. Ceci étant, lorsque nous étions en face de ces athlètes-là, nous avions affaire à des garçons et des filles qui, certes, étaient entraînés, mais étaient aussi talentueux. Donc, la réflexion que nous avions à ce sujet, donc les Français, c'est que nous n'avions pas donc la même organisation et qu'il était question justement de faire en sorte, au-delà de l'état d'esprit et du talent de chaque champion, de faire en sorte d'avoir ces montages-là. Et c'est ainsi que nous avons d'ailleurs copié les écoles de sport soviétiques, mais évidemment pas avec la même envergure déjà d'une part et pas avec le même esprit, parce qu'il était patent que c'était quand même la représentation d'un régime par rapport justement à nos productions à nous, donc dans le monde occidental. Alors ça, c'était quand même un conflit considérable par rapport à l'état d'esprit à l'origine.
Sylvain Dufraisse, vous expliquez qu'au départ du communisme, on est un peu suspicieux à l'égard du sport, hein. C'est une pratique bourgeoise, bon, on s'en méfie. Et puis vous dites qu'à partir de 1934, tout va changer en Union soviétique. Qu'est-ce qui se passe en 1934 et qu'est-ce que devient le champion soviétique?
Alors, il y a plusieurs raisons qui expliquent en fait ce tournant. C'est d'abord un moment où, après le chaos de la collectivisation, le chaos de l'industrialisation à marche forcée, se développe en URSS pour satisfaire, pour avoir une impression de normalisation de la vie sociale, le spectacle sportif. Et donc, pour avoir du spectacle sportif, on est obligé d'avoir des champions. Deuxième élément, le champion, ça peut devenir un modèle. Et comme dans les industries, il y avait le loup-darnic, le travailleur de choc, on se dit que le champion, ça peut permettre d'attirer les masses à la pratique, d'attirer les masses à la pratique sportive. Donc, il y a ces deux aspects-là, à la fois divertir et à la fois attirer vers la pratique sportive.
Et du coup, on va mettre en place toute une industrie, entre guillemets, pour créer le champion soviétique des meilleures filles et fils de l'Union soviétique.
Oui, mais alors c'est un peu chaotant. C'est-à-dire qu'au début, ce sont des expériences ponctuelles, des écoles qui se mettent en place autour d'entraîneurs. Il n'y a rien de, dès les années 30, très strict, très organisé. Et c'est vraiment entre 1934 et 1952 que ces expériences se stabilisent, s'organisent, s'ordonnent.
Bien plus tard, Jean-Michel Leprenec, vous avez, vous, visité, je crois, dans la fin des années 70, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises.
77.
Pendant 17 jours, vous avez été amené à visiter ces infrastructures soviétiques en tant que Français, donc occidental. Quel était le contexte? Pourquoi ce voyage? Et quels souvenirs vous en avez, Jean-Michel?
Alors, pourquoi ce voyage? Parce que j'allais passer en télé nationale du sabre. Et le sabre soviétique dominait d'une façon considérable, évidemment, le monde et particulièrement les Jeux Olympiques.
Il a ramassé toutes les médailles.
Voilà, j'étais aux Jeux Olympiques de Montréal. Eh bien, 1, 2, 3, ce sont les soviétiques. Et
les trois médailles, tout le podium est soviétique.
Absolument, voilà.
Donc, on se pose des questions, on se dit comment ils font, c'est ça?
Voilà. Alors, comment ils font? Dans la mesure où nous, les Français, on n'était pas bons à cette époque-là. On était vraiment donc assez déconsidérés d'ailleurs par ces nations-là, par les nations slaves qui disaient « bon, les Français, de toute façon, sont pas bons ». Voilà. Alors, lorsque j'allais passer en télé nationale, je me suis dit « il faut que j'aille voir en Union soviétique comment ça se passe ». C'était pas évident.
Et donc,
parce
ils ont accepté que vous veniez en tant que Français, regardez.
Oui. Absolument, ah oui, absolument. Je suis allé donc à l'invitation, puisque nous avions reçu un entraîneur de Fleuret, puisque nous étions bons en Fleuret ou au Fleuret notamment en France. Et donc on a fait une sorte d'échange, qui était le premier
un
du
correspondant.
Genre. Voilà, qui était le premier du genre. Et donc j'ai passé 17 jours où ils m'ont pas pris très au sérieux. D'ailleurs, c'est ce que je disais juste avant cette émission. Et donc j'ai fait un petit peu de l'espionnage sportif. Il faut dire le mot carrément.
C'est la guerre froide.
Voilà, en interrogeant les entraîneurs, en interrogeant les athlètes, en leur posant des questions différentes et des questions identiques pour croiser, parce que j'avais des réponses qui n'étaient pas fiables. Donc j'ai fait ce stage en revenant avec des informations absolument intéressantes sur l'organisation du sport, sur l'attitude des champions, sur la façon dont ils s'entraînaient.
Qu'est-ce que vous avez vu alors? Qu'est-ce que vous avez vu là-bas sur
place? J'ai vu surtout une école de sport où je les ai forcés à me montrer une école de sport, ils ne voulaient pas me la montrer. Voilà. Et là, j'ai vu des gamins qui avaient entre 15 et 18 ans et qui travaillaient d'une façon extrêmement intéressante. Par exemple, c'était 250 élèves à Minsk et 250 élèves avec 8 mètres d'armes dont 2 femmes. Donc chez moi, en France, c'est quelque chose qui n'existait pas. Une telle masse d'élèves d'une part et puis autant d'entraîneurs.
Et donc ça, voilà. on a copié nous après ou pas?
Alors nous après on a copié, c'est-à-dire qu'à partir de 75 on faisait ce qu'on appelle des sections sport-études. Et puis après, donc enfin à partir des années 70 et à partir de 75, on a mis en place ce qu'on appelle aujourd'hui des pôles d'excellence. Voilà, donc ça s'appelait au départ les CPES, c'est-à-dire les centres permanents d'entraînement et de formation, dont j'étais responsable un temps pendant 2 ans au ministère. Et donc nous les avons copiés, mais il y avait une et il y a toujours d'ailleurs une règle fondamentale, c'est-à-dire le double projet sportif en France. C'est-à-dire qu'on ne veut pas des gladiateurs, on ne veut pas uniquement des champions, on veut des gamins aussi qui fassent des études, notamment à l'Institut National des Sports, et qui réussissent dans la vie plus tard.
Est-ce que ça a porté ses fruits?
Ça a porté ses fruits.
Est-ce que,
oui,
par exemple, Jean-François Lamour, il sort de là ou pas, par exemple, lui?
Jean-François Lamour sort de là, il a passé
donc
de nombreuses années.
Grâce à votre côté espion, en fait, c'est ça? Espion de la guerre froide. Alors, Jean-François Lamour est champion olympique grâce à votre espionnage, en fait.
Oui, mais justement, vous pouvez pas savoir à quel point vous dites vrai, parce que finalement.
Voilà.
Voilà, donc vous êtes doué, il n'y a pas de problème.
Voilà, c'est gentil.
Ce qui est certain, c'est que à l'issue de ce séjour, j'ai pris le parti de faire venir un entraîneur national étranger. Ce qui était une bombe, en fait.
Une hérésie à l'époque en France. Une hérésie.
Voilà, au pays de, comment dirais-je, dans le berceau de l'escrime.
Et oui.
Donc, c'est-à-dire la France, bon, faire venir un entraîneur étranger, c'était quand même extrêmement périlleux et j'avais beaucoup de gens, donc, contre moi à ce sujet, y compris l'équipe de France de sabre, dont Jean-François Lamour. Et j'ai donc imposé un entraîneur hongrois. J'ai pas pris un russe quand même, j'ai pas pris un soviétique, mais j'ai imposé un entraîneur hongrois.
Bloc cet de
entraîneur
l'Est, hongrois. Bloc de l'Est.
Voilà. Et ça a été cet entraîneur hongrois qui était absolument talentueux,
d'accord,
et génial.
D'accord.
C'était aussi quelque part un directeur de goulag.
D'accord.
Il a fait avec l'équipe de France, il a fait ce que n'aurait jamais pu faire un entraîneur national français, dont j'ai été. Voilà. Ils étaient absolument.
Mais ça a porté ses fruits. Ça a apporté ses fruits.
Double champion olympique.
Ça a apporté ses fruits.
Le
sabre
a fait des médailles olympiques. Voilà.
Sylvain Dufraisse, vous racontez qu'il y a trois grandes étapes dans la fabrique de ce champion soviétique. En 34, les années 50, où on met en place le système, on fabrique l'élite. Et puis une phase de suprématie et de victoire, voilà, qui vont jusqu'à la fin des années 60, je crois. Et ensuite, il y a une époque qui est la plus contemporaine, celle qu'évoque Jean-Michel Oprindec, qui est une époque plus compliquée pour le champion soviétique. C'est quoi la vie du champion dans les années 70-80? C'est moins simple qu'avant, quand même.
Alors, d'abord, puisque en 64, à Tokyo, ils se sont rendu compte que le niveau de la concurrence augmentait.
Et
que
oui.
Ce soit les États-Unis, le Japon, les autres pays d'Europe. Et un des problèmes qui a eu cours dans les années 50, c'est que les sportifs commençaient à recevoir beaucoup d'argent, pouvaient accéder à des restaurants, ce qui était assez compliqué.
Un régime de promu.
Dans
un système égalitaire.
Dans un système égalitaire.
Une hérésie, complètement.
Et donc, ce qui caractérise ces années 70, c'est le renforcement du contrôle sur ces sportifs. Et à la fois au contrôle au niveau de l'entraînement, et aussi du contrôle idéologique.
Et de la vie quotidienne aussi un peu.
Et de la vie quotidienne, de leur apport nutritionnel, mais on se soucie aussi de leur bien-être psychologique. C'est-à-dire que les soviétiques se sont rendus compte que la compétition, ça pouvait entraîner beaucoup de stress. Et donc, ils intègrent aux équipes de préparation des psychologues du sport très tôt. On leur fait même
c'est
faire
pionniers,
de la sophrologie.
Hein. C'est des précurseurs d'ailleurs, les Russes.
Ce sont des précurseurs.
Les soviétiques.
Aussi, ce qui est important, c'est la dimension de contrôle idéologique. C'est-à-dire qu'en plus des cours de sport, dans les équivalents de pôles, dans ces écoles, ils ont le soir des cours de politique, des cours de géopolitique et également des cours de lecture. Puisque une des critiques qui leur a été faite dans les années 50, c'est qu'ils étaient trop stupides, pas assez formés, pas assez éduqués.
Et pas assez lettrés.
Pas assez lettré. Ça ne peut pas être le cas d'un sportif soviétique qui doit à la fois être quelqu'un d'équilibré d'un point de vue intellectuel et physique.
La tête et les jambes.
La tête et les jambes. Et donc, ils avaient des formations complémentaires le soir à la lecture, géopolitique, etc.
Vlassov, lisait London ou Hemingway, d'après Claude Darget.
Et aussi Gorky. Aussi.
Et oui, forcément. Mais c'est important de le dire, évidemment. Allez, 18h34 sur Inter, on va continuer à parler de sport et du champion soviétique. Juste après le disque, c'est l'heure de l'orchestre emmené ce soir par Lou Doyon, le titre joué Burn. On aime et on recommande, ainsi soit-il.
Once again, it shakes, it stirs you. I'm getting close enough to feel the heat. And I know just what you're going to say. Get as far as you can, make a U-turn, baby. But when I'm up close, it's too late to turn back. Or just like a book, I'm attracted to the late. I'm attracted to the late. I'm attracted to the burn. See
a child again. Back on my tiptoes, oh, watch me shudder. By my own will, I'm heading for the fun. No matter where I start, I know very well where this ends. But when I'm up close, it's too late to turn back. Well, just like a book, I'm attracted to the late. I'm attracted to the late. I'm attracted to the burn.
En 1956, les Jeux ont lieu pour la première fois dans l'hémisphère austral. La cérémonie d'ouverture est présidée par le duc d'Édimbourg.
L'œil du tigre.
Un coureur de fond soviétique en est la vedette. Le marin Vladimir Kouts.
Philippe Collin.
Aux 5000 mètres, dans un style robuste et efficace, un peu à la manière de Zatopek, mais en moins grimaçant, il écœure le long ligne anglais Piri et l'emporte en 13 minutes, 39 secondes, 6 dixièmes. Aux 10 000 mètres, son succès est également sans histoire en 28 minutes, 45 secondes, 6 dixièmes.
Sur France Inter.
Officier de l'armée rouge et grand champion de l'Union soviétique, Vladimir Kouts fut en effet un immense coureur de fond. Un athlète russe deux fois médaillé d'or au JO de Melbourne en 1956. Mais la fabrique du champion soviétique ne fut pas qu'une question d'hommes. Le régime a très vite compris l'intérêt de promouvoir des femmes et l'Union soviétique est devenue aussi la matrice de grandes héroïnes du sport et tout particulièrement en gymnastique, notamment au JO de Munich en 72.
La gymnastique maintenant, ce sont donc les soviétiques, l'équipe féminine du RSS qui a remporté la médaille d'or.
Oui, une victoire soviétique très attendue car les gymnastes soviétiques ont gagné tous les titres olympiques depuis 1952, depuis les Jeux d'Helsinki. Et elles ont obtenu hier un véritable triomphe à Munich devant une salle archi-comble. Mais nous avons surtout retenu l'exhibition de la Benjamine de cette équipe soviétique. La voici à la poutre. Elle s'appelle Olga Korbu. Elle a tout juste 17 ans. Elle est minuscule, 1m54, 38 kg seulement. Mais quel talent! Déjà aux exercices au sol, la gracieuse et ravissante petite soviétique avait recueilli une formidable ovation. Ici, à la poutre, elle va enrichir le capital point de l'équipe soviétique qui comptait encore deux exceptionnels gymnastes, Tamara Lazakovitch et Ludmila Turicheva. Quant à Olga Korbu, elle sera peut-être la meilleure gymnaste du monde avant 2 ans.
Olga Korbut, Sylvain Dufresne, je rappelle que vous êtes historien et auteur d'un récit très documenté et passionnant intitulé « Les héros du sport, une histoire des champions soviétiques ». Et il faut dire en effet, Sylvain, que le sport en URSS fut aussi une question de femmes, notamment grâce à Olga Korbut par exemple. Alors en quelques mots, qui était-elle, Olga Korbut, et comment elle incarne justement cette fabrique à champions du soviétisme?
Alors il faut voir qu'elle arrive après, au début des années 70, à un moment où l'image des championnes soviétiques, c'était les lanceuses de disques, les lanceuses de poids, donc des viragos, des femmes un peu considérées comme homas, qui étaient très critiquées en Occident. Et en 72, on voit émerger ce petit moineau, comme l'appelle...
Le moineau de Minsk,
Le moineau de Minsk.
Oui.
Et elle est importante puisque, d'un côté, elle propose des figures qui sont extrêmement spectaculaires, tant et si bien que le comité technique de gymnastique songe à interdire les figures qu'elle réalise. Mais deuxièmement, elle les fait avec beaucoup de grâce, d'élégance. Et elle popularise la gymnastique féminine auprès des petites filles, aux États-Unis, en Europe occidentale. Mais c'est aussi un personnage intéressant parce que c'est aussi un petit électron libre. C'est-à-dire que les soviétiques, les dirigeants sportifs, les chefs de délégation ont beaucoup de mal à la contrôler. Elle aime beaucoup fuir les délégations. À Tokyo, elle va se balader avec sa copine Tamara Lazakovic. Ensuite, en 73, à Londres, elle refuse d'abord de prendre part à la compétition. Ensuite, elle refuse de descendre du podium. Et ensuite, bon, les soviétiques sont quand même obligés de l'amener parce qu'elle a un tel succès. On publie énormément de livres.
Et sur... un tel talent.
Et un tel talent, mais aussi un tel succès. On publie énormément de livres aux États-Unis sur elle que les, quand il y a des tournées de gymnastique aux États-Unis, le contrat stipule qu'elle doit être à l'intérieur de cette tournée-là. Et donc, les soviétiques ne peuvent pas ne pas la laisser franchir les frontières.
Mais elle incarne aussi le système dans le sens où son père est un vétéran de la guerre patriotique, je crois, donc la Seconde Guerre mondiale. Elle incarne ça aussi, c'est-à-dire que tout d'un coup, elle est l'héritière d'une histoire russe qui la dépasse. C'est important aussi pour elle, ça. Enfin, pour elle, dans la mise en scène de la Corbout, en fait.
Et elle vient aussi des confins de l'URSS. Elle vient de Grodno, donc à la limite de la Pologne. Et donc, elle vient d'un espace qui a été au final soviétisé assez récemment. Et toutes ses copines de l'équipe de gymnastique de 72 viennent d'Asie centrale, de Tchétchénie aussi. Et donc, on voit aussi que cette équipe, elle montre la diversité des républiques, de la diversité des peuples qui existent en Union soviétique.
Jean-Michel Oprinlec, je vous rappelle, vous êtes donc un ancien escrimeur et que vous avez beaucoup fréquenté la guerre froide sportive dans les années 70 et 80. Je me posais la question, quand on est sportif dans ces années-là, est-ce qu'on a conscience d'affronter des sportifs qui incarnent aussi une idéologie? C'est-à-dire qu'à la fois, ils sont des grands sportifs avec beaucoup de talent, ils ont beaucoup de mérite et ils ont beaucoup travaillé pour ça, mais ils sont aussi au service d'une idéologie. Est-ce qu'on a conscience de ça quand on est escrimeur français, par exemple, qu'on va affronter un soviétique?
Alors, on en a conscience, mais on le ressent surtout. Ah. Voilà, on sent qu'il y a donc... le terme n'existe peut-être pas, mais une forme de compacité dans ces équipes. Si je prends donc la typologie de nos athlètes occidentaux, mais particulièrement des Français, voilà, chacun avait un côté individuel. Jean-François Lamour, c'était pas Hervé Granger-Véran, etc., etc. Donc il y avait donc chez les Français une difficulté parfois à faire en sorte qu'ils soient copains, que ça marche. On y arrivait évidemment.
Cohésion de groupe compliquée.
Voilà, alors que nous avions un bloc en face. Donc manifestement, notamment aux Jeux Olympiques de Montréal, quand les trois soviétiques tirent, donc on sent qu'ils sont là à se soutenir mutuellement après s'être rencontrés mutuellement, parce que ça commence comme ça à partir du moment où ils sont nombreux dans une finale. Après, on sent qui va gagner finalement. Voilà, c'est-à-dire que c'est pratiquement préétabli. Alors donc cet état d'esprit était tout de même une force et c'est impressionnant.
Mais ça, vous l'avez ressenti en tant que sportif. Du coup, c'était impressionnant. Du coup, on avait un ascendant psychologique du côté soviétique en tout cas.
Voilà, absolument. Parce que au-delà de leur talent, il y avait quelque chose de plus qui ne nous convenait pas évidemment, mais qui fait que donc ils arrivaient à dépasser certaines frontières sportives par rapport à nous où on pouvait être un petit peu désorganisé. Par exemple, donc Montréal, trois soviétiques en finale et trois Italiens. Trois Italiens. Donc sur six, trois soviétiques, trois Italiens. Les Italiens font 4-5-6. Et ça, je pense qu'au-delà du talent des soviétiques, il y a justement ce bloc
cet esprit de corps,
qui l'a remporté.
Un esprit de corps très très très
absolument,
fort.
Absolument, c'est impressionnant. Ouais.
Sylvain Dufraisse, du côté, on va dire, citoyen de l'Ouest, moi j'ai lu le livre, votre livre, et j'ai croisé plein de grands champions, mais j'en connais très peu. Alors, la Corbout, évidemment, c'est autre chose, hein, c'est une égérie des années 70, mais on s'aperçoit qu'en fait, ici, on ne connaît pas trop ces grands champions, alors qu'en fait, là-bas, ils sont encore très connus et très populaires. On a vraiment deux historiographies très différentes, en fait, là.
Oui, et d'ailleurs, même lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Sochi,
en 2014,
Irina Rodnina était là, Vladislav Tretiak était là, et donc...
Et là, tout le monde se dit qui?
Exactement, donc le hockeyeur Vladislav Tretiak, Irina Rodnina, la patineuse qui est aussi députée pour Russie Unie. Et donc, vous aviez aussi, lors de l'arrivée de la flamme olympique à Moscou, avant qu'elle parte pour Sochi, il y avait Lydia Skoblikova, que personne ne connaît non plus, mais qui est une patineuse de vitesse assez célèbre en Russie. Et donc, ces sportifs connaissent une grande popularité encore. Bon, certains, ceux qui ont ensuite eu un destin moins politique ou qui ont été, disons, moins dans les associations à la tête des fédérations, eux sont tombés dans l'oubli. On a quand même une grande partie des équipes dont on se souvient plus trop.
Aussi. Mais non, par exemple, ce Vladimir Kouts, là, on a entendu son nom tout à l'heure parce qu'effectivement, il a double médaille d'or à Melbourne en 56. C'est un immense athlète. Je pense que ce soir, là, on nous écoute. Les gens savent pas qui c'est Vladimir Kouts, à part les grands spécialistes du sport. Mais lui, pareil, Sylvain, c'est un immense champion populaire en URSS. Il incarne une histoire, lui. Il incarne une histoire.
Exactement. C'est un immense champion populaire et qui représente le jeune homme des années 60. Donc lui, il vient d'Ukraine, il vient de la frontière ukraino-russe. Il était dans l'Ukraine occupée et quand l'armée rouge est venue libérer l'Ukraine du joug nazi, il s'est engagé auprès de l'armée rouge. Il a combattu d'abord dans la Grande Guerre patriotique comme sniper. Ensuite, il s'est engagé dans la flotte de la Baltique. Et c'est dans la flotte de la Baltique que l'on a vu quelles étaient ses capacités de coureur. Et c'est un entraîneur militaire qui l'a formé et qui lui a permis de s'élever. Ce qui est aussi intéressant à travers son parcours, c'est de montrer comment, en URSS, un jeune paysan peut devenir un champion olympique, peut accéder à l'étranger à l'or olympique. Et c'est ça dans son parcours qui est intéressant et qui est popularisé auprès de l'ensemble de la population.
Jean-Michel, on vient de prononcer le mot entraîneur militaire. Il faut savoir qu'en escrime, on fait aussi beaucoup de compétitions militaires internationales. Vous en avez vous-même pratiqué, notamment en Suède en 71. Il y a des mondiaux, je crois. Quand on est militaire face à une équipe soviétique, on affronte des gars de l'armée rouge. C'est sans doute un climat assez particulier parce que c'est une guerre froide. Donc on ne s'affronte pas sur le terrain des opérations militaires, mais sur le stade, on a face à soi des militaires de l'armée rouge. C'est assez étrange, j'imagine.
Absolument, oui, mais à ce niveau-là, c'est le sport qui prédomine. Mm-hmm. On ne pense pas donc à un affrontement guerrier, oui. Évidemment, d'autant plus qu'on les connaît, en ce sens que les équipes de France militaire étaient souvent les équipes du bataillon Joinville, qui a disparu maintenant, mais tout de même, ils se connaissaient. Donc, il y a, au-delà de tout de même, une fraternité sportive.
Ah oui, malgré tout. Hein, ça c'est quand même... Mais du coup, est-ce que vous avez des contacts encore avec des champions soviétiques ou pas? Est-ce que vous avez revu des champions soviétiques, par exemple, après la chute du mur? Est-ce que les choses se sont renouées ou pas spécialement?
Alors, on les voit parfois quand ils prennent une... Comment dirais-je? Ils deviennent arbitres.
D'accord. Voilà,
ils deviennent ce qu'on appelle président de jury à l'escrime. Et donc, à ce moment-là, on les voit. Sinon, on ne les voit pas. Alors,
mais il y a un contact, on se serre la main, on a des souvenirs communs quand même.
Oui, bien sûr.
C'est une époque particulière qui a disparu aujourd'hui. C'est un monde englouti, tout ça. Donc...
Tout à fait. C'est-à-dire que pour revenir un petit peu sur ce que disait Sylvain tout à l'heure, en termes de médiatisation, il y a une médiatisation extraordinaire qui se faisait dans le monde occidental, quand même un petit peu moins dans ce monde fermé par rapport au contexte politique. Et quand on voit par exemple les Jeux Olympiques de 84 à Los Angeles, bon, on a tous les athlètes, tous les grands athlètes américains qui sont là, allumer la flamme, à courir et à dire le serment olympique. Donc nous sommes dans la même configuration, mais tout le monde les connaît. Tout le monde les connaît.
Bien sûr.
Voilà. Alors que les Soviétiques.
C'est Carl Lewis, par exemple. Vous voyez, donc, voilà. Tout le monde sait que c'est Carl Lewis.
Et il y avait cette attitude, en fait, cette attitude un peu de rejet par rapport aux politiques qui fait que ça débordait sur le plan sportif aussi.
Sylvain Dufresne.
Il y a aussi un autre élément, c'est que parmi les injonctions des chefs de délégation, on leur demande d'être modestes, réservés, de ne pas trop répondre aux journalistes. Et donc, ce comportement-là, et parfois aussi, quand on discute avec des gens qui ont côtoyé ces athlètes, ils disaient, oui, ils étaient très réservés, très durs, très froids. En fait, c'est ce qu'on leur demandait. On leur demandait d'avoir cette retenue par rapport...
C'était une sorte de vitrine de l'URSS. Exactement. Donc, il fallait se tenir et avoir le même visage pour tout le monde, en fait, finalement.
Exactement.
Le bloc passait aussi par là. La frontière passait aussi par là, sans doute. On imagine, Sylvain, que Poutine est passionné par toutes les Russies, de Pierre le Grand à lui-même. Est-ce que, du coup, ces sportifs soviétiques, ils sont importants pour lui dans la construction aujourd'hui d'une Russie contemporaine? Est-ce qu'il les ressort? Est-ce qu'il les entretient?
Alors, déjà, oui, parce que certains sont devenus de ses ministres. Par exemple, Fetisov, qui est un hockeyeur, est devenu son ministre du sport.
Grand hockeyeur, Fetisov.
Ensuite, ce qui est aussi intéressant, c'est que le retour à une politique de performance sportive a été réalisé en raison de ce prestige soviétique et de la période assez problématique helsinienne, où il y a eu des scandales de corruption, des scandales de dopage. Et Poutine a cherché à faire ressurgir une élite sportive assez rapidement, et ça a causé d'autres problèmes qui ont eu lieu ensuite à Sochi. Mais en tout cas, il y a cet antécédent, et ces sportifs soviétiques sont un peu...
Ça reste une excellence.
Une excellence, exactement.
Du système qui a créé ces grands champions, comme la conquête spatiale, finalement. Ouais. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a l'espace et les sportifs, c'était quand même deux grandes réussites du régime.
Et c'était aussi, aujourd'hui, en Russie, ça fait partie des les fiertés du régime soviétique, ces sportifs qu'on a produits. Donc il y a cet attachement toujours à ces grands champions.
Jean-Michel Oprindec, est-ce qu'aujourd'hui, vous fréquentez encore, j'imagine, certaines compétitions, donc c'est un monde qui a disparu, hein, c'est l'histoire de l'humanité, mais est-ce qu'il y a une petite nostalgie ou pas? Parce que c'est quand même des grandes heures du sport, ces affrontements entre le bloc de l'Est et les champions de l'Ouest. Aujourd'hui, bah, c'est autre chose, et d'autres oppositions qui sont aussi symboliques, mais est-ce que parfois on ressent un tout petit peu ce manque ou pas du tout?
Alors, on n'a pas de nostalgie en ce qui concerne l'escrime, parce que de toute façon, les Russes sont là, ils sont forts.
Ils sont toujours
on
là.
On les a pas éradiqués.
Voilà. Ils sont là,
donc ils s'entraînent toujours dans des conditions qui sont absolument avantageuses. Mais alors, il y a anecdote.
Allez-y.
Voilà, en ce qui concerne le sabre, une anecdote incroyable, à savoir que dans les années dont je vous ai parlé, les années 80, donc les Russes étaient assez méprisants vis-à-vis de nous dédaignaient. Et vous savez quel est l'entraîneur actuellement de l'équipe de sabre russe et qui gagne toutes les médailles olympiques et du monde?
Non.
C'est un entraîneur français.
Ça, c'est qui cet entraîneur français?
Alors, il s'appelle Christian Bauer.
D'accord.
Il s'appelle Christian Bauer. Il a fait partie des équipes de France à l'époque où j'étais entraîneur.
D'accord.
Voilà. Et donc, il est devenu entraîneur par la suite, entraîneur national de l'équipe de France. Champion olympique, entraîneur national d'Italie avec un champion olympique. Il est parti en Chine et actuellement il est en Russie. Donc recruté par le président international le président de la Fédération internationale d'escrime, qui s'appelle Alizer Ousmanov, qui est un oligarque russe. Et il a recruté Christian Bauer en considérant que c'était le meilleur entraîneur. Et c'est actuellement le meilleur entraîneur du monde en termes de résultats.
Alors, vous
me demandez si nous avons toujours des contacts.
Oui, l'histoire est assez passionnante. Et
nous avons même un traître, voilà.
Ou un espion comme vous, très infiltré. Oui, très infiltré.
En tout cas, ça revient pas chez nous. Quoi, en tout cas.
Peut-être, on ne sait pas. En tout cas, merci à vous deux d'être venus ce soir. Je rappelle que vous pouvez lire ce récit passionnant, Les héros du sport, une histoire des champions soviétiques. C'est signé Sylvain Dufresne et c'est disponible aux éditions Champ Vallon. Merci beaucoup à vous deux. Ne quittez pas l'écoute, car voici maintenant le Give Me Five de Joy Raffin.
L'œil du tigre.
Rebonsoir Joy.
Rebonsoir Colin, rebonsoir à tous.
Alors que trouve-t-on dans ce Give Me Five ce soir?
Eh ben un big up bien sûr. On commence avec un big up à l'équipe féminine nationale américaine de football, la Team USA, parce que vendredi, les 28 footballeuses internationales ont porté plainte devant un tribunal de Los Angeles pour dénoncer la différence de traitement avec leurs collègues masculins en matière de salaire et de conditions de travail. Enfin, c'est hallucinant.
Oui, elles portent plainte.
Oui. Donc des primes reçues, alors en moyenne, 5 fois moins importantes que celles pour les hommes, bien sûr, jusqu'au fait qu'elles se trouvent obligées de jouer, comme toujours, sur les terrains synthétiques et non pas sur du gazon. Les footballeuses estiment que la Fédération américaine de foot a totalement échoué à promouvoir l'égalité des sexes dans leur sport. Et franchement,
elles n'ont pas tort.
Elles n'ont pas tort, voilà. Et alors surtout qu'il faut rappeler quand même que les Américaines sont l'une des équipes de référence du football féminin. Elles sont actuellement en tête du classement mondial, quadruple championne olympique. Elles ont remporté 3 éditions de la Coupe du Monde.
En gros, c'est le Brésil.
Hein. On peut dire ça comme ça, voilà. Pourquoi pas. Alors que les hommes, eux, pour leur part, ne sont jamais allés plus loin qu'un quart de finale lors d'un mondial, c'était en 2002. Enfin, je suis méchante en fait, il y avait une place de demi-finaliste lors de la toute première édition de la Coupe du Monde en 1930.
Oui.
Voilà. Donc dans le football, who won the world, girls et surtout
les footballeuses. Et les joueuses ne sont pas là que pour faire de la figuration, effectivement. Hein. Et sinon,
bah hier, Barbie a fêté ses 60 ans.
Ah oui, 60 ans Barbie. Oui.
Bon anniversaire. Mm-hmm. Et on vient d'apprendre que la tenniswoman japonaise Naomi Osaka, actuelle numéro 1 mondiale, aura droit à une Barbie à son effigie dans le cadre de la collection Heroes, contraction de Heroes au féminin. Donc vous figurez déjà parmi les sportives, la gymnaste Lori Hernandez ou l'escrimeuse Ibicha Mourabad. Et comme Naomi Osaka est une fille bien, tout l'argent récolté grâce à la vente de sa poupée Barbie ira dans les caisses de l'association créée par son père qui développe plus des écoles élémentaires à Haïti. Bravo et happy birthday Barbie.
Évidemment, art toujours, hein, donc après une poupée, tu veux nous parler d'une statue à l'effigie d'un sportif.
Ouais, parce que ça paraît rien. Attention. Mais pour la première fois cette semaine, un joueur de foot a obtenu d'avoir sa statue sur le sol américain. Et je vous en disais tout à l'heure, hein, vraiment le soccer, comme on dit là-bas, c'est pas vraiment le sport roi. Et ce sportif, c'est David Beckham, le Spice Boys, tout en pierre, donc, que l'on pourra maintenant admirer devant le stade du Los Angeles Galaxy Club, où il a joué donc de 2007 à 2012. La statue le représente, évidemment, BG, hein, David, en train de frapper un coup franc bien ciselé, l'une de ses spécialités, bien joué.
Donc, voilà. BG voulant dire beau gosse. Faut que je traduise un petit peu. Algérie, maintenant, le football, là aussi, devient un outil de contestation politique.
Ouais, c'est le constat d'un article, passionnant à lire dans le journal Le Monde, intitulé Algérie, les supporters de foot, fer de lance de la contestation. Alors en fait, en ce moment, alors que des milliers d'Algériens, on en parle hein, tous les jours, descendent dans la rue pour protester contre la candidature d'Abdelaziz Bouteflika, de fait, le championnat de foot est mis entre parenthèses et les codes et les rites des supporters se déplacent sur le bitume algérois. Et les anciens adversaires chantent maintenant et manifestent ensemble, mettant à profit vraiment tout leur savoir-faire en réaménageant par exemple les paroles de leurs chants, le tout dans une ambiance souvent bien plus cool et pacifique hein, que ça ne l'était aux abords des stades. Alors le chant La Casa del Muradia, par exemple, est devenu un hymne de la jeunesse contre le pouvoir en place, alors même que c'est un hymne qui résonnait il y a quelques semaines encore dans l'enceinte de la Mouradia d'Alger ou d'Oran, qui sont deux clubs de foot du pays. Donc le foot et la rue rassemblent et font ressortir vraiment là en Algérie en ce moment ce que la solidarité et la mixité peuvent avoir de plus beau. C'est un article passionnant et encourageant de Fahim Djebara à lire sur lemonde.fr, Colin.
Très bien, merci. Et pour finir, Joy, ton conseil culturel du jour.
Eh bien, c'est une série géniale qui est disponible sur Netflix, donc gratuite si vous n'êtes pas encore abonné pendant un mois, puisque c'est ça l'offre d'abonnement, qui est disponible depuis quelques jours et qui s'appelle Losers.
Et ça a l'air extraordinaire.
Perdant, voilà. Alors le pitch est le suivant. Dans une société qui valorise les gagnants, comment gérer l'échec ? Cette série s'intéresse aux athlètes qui ont transformé leur défaite cuisante en triomphe humain.
Des losers. Point. Des magnifiques losers.
Oui, mais alors quand vous allez voir la liste des gens qui sont cités, des losers, oui et non. Voilà, il s'agit en fait de 8 histoires d'une trentaine de minutes qui se regardent toutes indépendamment les unes des autres, hein, elles ne se suivent pas, qui retracent chacune une histoire vraie liée au sport dans un format documentaire qui mêle interviews, images d'archives et dessins animés. C'est vraiment en plus hyper joli, ce qui est quand même quali. Vous découvrirez par exemple l'histoire alors un peu folle du club de foot anglais de Torquay, qui a été sauvé de la relégation en 1987 lorsque le chien d'un stadier a mordu la cuisse de l'attaquant star de l'équipe. Je vous raconte pas la suite, faut regarder.
C'est improbable, mais c'est génial.
Il y a l'histoire aussi de Michael Bent, hein, le champion de boxe que l'on connaît maintenant comme acteur, et celle encore, ma préf, hein, peut-être à moi, un mini biopic sur Surya Bonaly. Et oui, notre patineuse française. Moi qui pensais qu'elle avait tout gagné, c'est vraiment un de mes tout premiers souvenirs de sport, Surya Bonaly. Et là, on la voit dans Losers raconter en fait la gamine adoptée qu'elle était, voilà, qui a essayé l'escrime, tous les sports, avant de se confronter à la subjectivité, voire au racisme des juges hein, et du milieu du patinage artistique. Voilà, tout ça, je ne m'en étais pas rendu compte à l'époque, ça m'a touchée. D'ailleurs, je me suis dit, si jamais, Surya, vous nous écoutez, vous passez par là, n'hésitez pas, tout ça, moi, je ne le savais pas, je l'ai appris dans Losers, ça me fera très plaisir de vous rencontrer. Hein, Colin,
bien sûr, on la recevra avec grand plaisir, voilà. Surya Bonaly, avec un grand plaisir. L'invitation est lancée, Losers, donc une série disponible sur Netflix, ouais. Et le premier mois est gratuit, on vous le rappelle. Merci de venir la semaine prochaine.
Bye.
Salut. Et voilà, cette 27e émission de la saison 4 a été coachée, bien sûr, par l'incontournable H2M, Henri-Marc Mutel. Merci Marco, assisté ce soir à la technique de Johanna Gabric. Merci à elle, merci à toute l'équipe de L'œil du Tigre, Arnaud Jamin qui prépare cette émission avec moi, Loïc Saulnier pour les réseaux sociaux et Thierry Dupin pour les Scuds. On se retrouve la semaine prochaine avec Socrate sur un vélo. Comprenez un traité de philosophie appliqué au cyclisme signé Guillaume Martin, cycliste professionnel. Classé 21e au dernier Tour de France, une prouesse, et il est également diplômé d'un master de philosophie. Autant dire qu'on l'attend avec beaucoup d'impatience. D'ici là, passez une excellente soirée et une excellente semaine. On vous attend dimanche prochain dans le L'œil du Tigre à 18h sur Inter. Salut et fraternité.